Salut à tous et bienvenue encore une fois pour notre podcast hebdomadaire Super Physique. Je suis avec le ténébreux, l'incroyable, le magicien, le roux, qui est en direct de son lit, Julien Venesson.
Miaou.
Donc Julien, c'est une première, tu fais ce podcast en direct de ton lit.
Oui, je m'allonge, je médite pour penser à toutes mes réponses et pour essayer d'évacuer la chaleur.
Le sang circule mieux quand t'es allongé dans ton lit.
Exactement, il peut parvenir plus rapidement au cerveau.
D'ailleurs, tu m'as dit qu'on t'avait reconnu au Giga Gym.
Oui, j'ai des gens sympathiques qui sont venus me dire bonjour. Donc d'ailleurs, s'ils nous écoutent, bah, je les salue. Et voilà, Giga Gym qui est une salle très sympa avec du personnel très sympa aussi. J'invite tout le monde à venir tester le matériel. C'est vraiment c'est un petit coin de paradis pour ceux qui font de la muscu.
Tu parles de quel matériel ?
Matériel de muscu.
De toute façon, on sait jamais avec toi, hein.
Ouais.
Donc, je vais faire un petit point, très très rapide. Les t-shirts Super Physique sont en vente. Donc, oui, ça y est, Julien, ils sont en vente. Je le démontre.
Tu nous parles enfin des t-shirts après des mois de silence.
Après des mois de silence. Donc là, ils sont en vente. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu, donc ils sont directement en page d'accueil du site. Donc j'ai refait un SP Man en noir qui rend vachement bien et j'ai testé donc un t-shirt rouge avec le logo Super Physique beaucoup plus discret et un slogan. Donc si vous avez des idées de slogan pour Super Physique, parce que je cherche toujours le slogan définitif qui arriverait à bien communiquer l'esprit Super Physique, n'hésitez pas à m'écrire pour me donner des idées car je cherche vraiment le slogan qui que je pourrais ensuite décliner sous plein de formes différentes parce que là j'arrête pas de changer. Et j'en ai un peu marre. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et donc, il y avait une autre actualité, enfin, qui n'est pas une actualité, mais qui a été une question que je ne savais pas où placer. Donc, je me la pose. Penses-tu que le powerlifting, donc la force athlétique, sera intégré aux Jeux Olympiques dans quelques années, et donc pourrait devenir un sport olympique? Sinon, qu'est-ce qui empêcherait cela? Équipement, trop de spotters, l'haltérophilie qui est déjà olympique, trop de fédérations, non. Oh bon. Donc j'avais bien parlé au championnat d'Europe avec le président de la fédération donc internationale de l'IPF qui m'avait dit justement que l'haltérophilie c'était pas un problème que ce soit olympique, ça gênait pas l'entrée de la force pour les Jeux Olympiques, que le matériel non plus ne gênait pas spécialement pour l'entrée. Donc après je sais pas trop ce qui bloque ou pas pour que ça atterrisse aux Jeux Olympiques, mais a priori c'était pas ces deux facteurs là.
Et lui, il ne savait pas non plus ce qui bloquait pour que ça atterrisse aux Olympiques.
Lui, justement, comme il était nouveau, ça fait moins d'un an qu'il y est, il disait justement que ça avançait, qu'il avait rencontré des personnes du CIO et ça avançait. Mmh. Donc là, pour l'instant, le powerlifting sera présent aux World Games, donc qui sont les Jeux Olympiques des sports non olympiques. Donc je crois que ça commence le 27 juillet et que c'est en Colombie. Ça va durer une semaine, donc il y a le powerlifting qui est, il y a deux Français qui y sont, donc il y a Hassan El Beghiti et Bénédicte Lepense qui vont participer. Mais donc, a priori, il n'y a rien de trop qui bloque. Après, il faut juste que des sports sortent pour que ça puisse entrer et voir combien de sports c'est sur la liste. Alors après, j'ai bien envie de dire que l'éternel débat, que ce serait mieux si c'était sans équipement. On aurait plus de monde et plus de participants, mais c'est pas le débat du soir. Ça peut être une question d'un autre podcast. Équipement ouais, et force athlétique.
C'est quand même plus sympa de regarder le curling à la télé que le powerlifting.
N'importe quoi.
Il y a plus de suspense.
Ouais. Bon, Julien, sur oui. Ce, donc, première question, diététique santé.
Oui.
Faire réchauffer des aliments au micro-ondes détruit-il les vitamines et minéraux? Pour les viandes et poissons au micro-ondes, leurs protéines restent-elles assimilables? Enfin, moi qui aime la cuisson vapeur, j'ai acheté MicroWap de chez Tupperware, qu'en penses-tu?
D'accord. Alors, premièrement, le micro-ondes, ça fonctionne en ayant des ondes qui rentrent en résonance avec les molécules d'eau, qui les excitent, et de là, qui produisent de la chaleur. Donc, il n'y a rien de mystérieux dans tout ça. C'est une cuisson, un petit peu comme une cuisson à l'eau, hein, on va dire, d'une certaine manière. Donc, en fait, toute cuisson, à cause de la température, provoque une perte de micronutriments, en particulier certaines vitamines. Donc, le micro-ondes n'est pas exempt de ce problème-là. Il y a des petites différences selon les modes de cuisson. Alors, je sais par exemple que le micro-ondes a tendance à détruire un petit peu plus la vitamine C, probablement parce que les ondes pénètrent bien en profondeur au niveau des aliments, et la chaleur interne doit dégrader un peu plus de vitamine C dans les aliments, comparativement à d'autres modes de cuisson. À l'inverse, le micro-ondes, si mes souvenirs sont bons, parce que j'ai pas le tableau sous les yeux, mais on avait fait un tableau il y a longtemps, je crois, pour lanutrition.fr, et la vitamine B9, par exemple, était un petit peu mieux préservée lors de la cuisson au micro-ondes. Donc l'un dans l'autre, tous les modes de cuisson ont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, on peut même étendre la réflexion à la cuisson vapeur. Beaucoup de gens recommandent la cuisson vapeur à basse température. Bah, c'est vrai que ça peut être intéressant pour préserver des vitamines, etc. Mais des fois, c'est pas forcément bien. Par exemple, pour détruire certains antinutriments qu'on retrouve dans des légumineuses, il vaut mieux au contraire cuire à température plus élevée. Donc voilà, chaque mode de cuisson a ses avantages et ses inconvénients. Donc, le micro-ondes, bah, pourquoi pas. En plus, c'est rapide, donc pour beaucoup de gens, c'est une bonne chose. Est-ce que ça empêche les protéines d'être digestibles? Bah, pas plus que la cuisson à l'eau ou les cuissons classiques. C'est exactement la même chose. Donc même au contraire, la cuisson a tendance à augmenter un peu la digestibilité de la plupart des protéines, en particulier la protéine de blanc d'œuf, puisque comme on le sait, quand elle est crue, elle n'est absorbée qu'à 50%, et quand elle est cuite, elle est absorbée jusqu'à 99%. Donc voilà pour les protéines. Et puis pour son appareil Tupperware, dont Rudy m'a montré à quoi ça ressemblait. Donc pour ceux qui sont en train de nous écouter, qui n'ont probablement pas une image devant les yeux, en fait c'est une sorte de cuve-vapeur classique, c'est-à-dire avec un récipient qui contient de l'eau, et au-dessus une partie dans laquelle on met les aliments, et on introduit ça dans le micro-ondes. Le micro-ondes est censé chauffer l'eau, qui ensuite est censé cuire les aliments à la vapeur. Donc, j'ai pas testé le concept, mais le problème de ce que j'ai vu, c'est que déjà, ça a l'air d'être dans un récipient en plastique. Donc, faudrait quand même s'assurer de quel type de plastique il s'agit, qu'il n'y ait pas de substances toxiques ou potentiellement toxiques, comme des phtalates ou du bisphénol ou d'autres trucs douteux. Sinon, dans le concept, bah, pourquoi pas, mais ça présente pas d'intérêt particulier par rapport au micro-ondes lui-même, hein, en termes de valeur nutritionnelle, en tout cas.
On entend souvent dire que le micro-ondes, c'est des mauvais.
Oui, c'est parce que beaucoup de gens sont un peu comprennent pas comment ça fonctionne. Donc, comme j'ai expliqué, c'est vrai que c'est un petit peu de la physique qui est pas accessible à tout le monde. Donc, une histoire d'ondes qui stimulent des molécules, c'est pas vraiment naturel. Nous, on a l'habitude de penser à des flammes qui chauffent quelque chose. Ça, on se dit que c'est naturel et donc que c'est sans danger. Mais c'est pas forcément vrai. Quand vous faites un barbecue, par exemple, bah, vous faites chauffer avec des flammes et vous dégagez énormément de substances cancérigènes à cause de la carbonisation et des réactions de Maillard et bien d'autres réactions qui ont lieu avec ces genres de cuisson. Donc c'est pas idéal. La vapeur, c'est très bien, et le micro-ondes, c'est plutôt pas mal, parce qu'il y a justement pas de température excessive, donc pas de brûlure. Donc, les aliments sont pas carbonisés, donc ça c'est pas mal pour éviter la production de certains composés cancérigènes. Bon, de manière générale, c'est bien aussi d'alterner les crudités avec les légumes cuits pour avoir un petit peu tous les avantages des deux préparations.
Merci Julien. A priori, cela te réussit d'être dans ton lit.
En fait, je suis repassé sur la chaise.
Ah bah voilà, ah merde. Test non concluant alors. Alors, question d'entraînement. Peut-on progresser continuellement en augmentant progressivement la charge tout en gardant la même fourchette de répétition, à savoir 10 à 12 répétitions? La réponse est non. Sinon, ça serait beaucoup trop simple, hein. Donc je donne un exemple. J'aime bien. Je fais 10 reps à 100 au coucher, et puis bah, chaque semaine j'ajoute 1 kilo. Non, il y a un moment, ça va se casser la gueule. Ça va arrêter de monter, et puis on va commencer à stagner, voire régresser. On va être crevé. Donc c'est ce que j'explique dans mon premier e-book, justement, où je conseille le bon rep range, comme on appelle ça. Ou que j'explique aussi sur Superphysique, je crois que c'est un des premiers articles, combien de répétitions faut-il faire pour prendre du muscle. Donc il ne faut pas se cantonner à un nombre de répétitions, une fourchette de répétitions aussi courte. on voit bien que, donc comme j'explique encore dans le premier ebook, il est plus facile de progresser en série longue, s'il y a moins de pourcentage de progression gagnée à chaque entraînement. Donc là, par exemple, en restant à 10-12, la marge de manœuvre pour progresser, ça reste sur la charge, alors qu'on peut aussi progresser en répétition, ce que j'ai remarqué qui était plus efficace à moyen et long terme pour progresser indéfiniment, entre guillemets.
Donc, la alors, si tu essaies de traduire le charabia que tu viens de nous raconter, tu es en train de nous dire que si on fait des séries de 20, par exemple à 100 kg, on arrivera progressivement, plus facilement à augmenter le poids sans changer le nombre de répétitions.
C'est pas ce que je voulais dire, mais on a mal compris alors.
C'est ce que j'ai compris moi.
Ok, bon, bah, je réexplique alors. Ah, je me suis embrouillé alors. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il est plus facile de progresser en ayant une fourchette de répétition plus longue, donc plus étendue, que ce qu'on vient de nous citer, en fait, 10-12. Car en fait, si on se contente à 10-12, et gagner une répétition quand t'es à 10 reps pour passer à 11, c'est quand même une sacrée progression à avoir de semaine en semaine.
Oui, donc ce que tu veux dire plutôt, c'est qu'il faut varier le nombre de répétitions.
Voilà, par exemple, je peux donner un exemple vite fait, mais si on entre 8 et 20 répétitions, en général, suivant les exercices, c'est la bonne moyenne pour progresser, parce qu'évidemment, on va pas pouvoir monter le poids à chaque entraînement, comme par magie, même si tu es un doux rêveur, Julien. Comme nous en avons parlé avant le podcast, Julien est un doux rêveur pour l'instant. Donc il y a un moment en fait où on va être obligé de passer pour progresser par l'augmentation des répétitions pour arriver à monter les poids.
À noter donc que c'est assez différent de la vision force, dans laquelle on va plutôt diminuer les répétitions pour aller chercher à gagner de la force et ensuite revenir en série de 10.
Voilà, bah là ouais, c'est plus. Ouais, t'as raison,
c'est grave. C'est l'inverse en fait.
C'est l'inverse. Ouais. L'inverse en fait, on monte donc entre 8 et 20 répétitions en moyenne. Après quelques exercices d'isolation, on peut aller un peu plus loin. Des exercices comme le coucher, on va peut-être un peu moins loin suivant ses points forts, ses points faibles. Mais il faut pas se cantonner à une fourchette de répétitions aussi courte. Donc là, une marge de manœuvre de 2 répétitions, on va vite stagner. Donc entre 8 et 20 répétitions, c'est la bonne moyenne pour progresser. Donc et donc pensez que si vous rajoutez une répétition, c'est aussi une progression. Il n'y a pas qu'augmenter le poids qui indique une progression. Une rep de plus, c'est une progression, c'est un acquis, aussi bien physique que psychologique pour la suite. Donc la réponse était non. Et il faut avoir une fourchette de répétition de progression beaucoup plus longue. Tu as tout compris, Julien ?
Oui, là, c'était clair cette fois-ci.
Voilà. Bon, bah, cool. Julien, le Coca-Light a-t-il un aspect positif ou négatif en période de sèche sur le rendu ?
Sur le rendu visuel ?
Ouais, a priori.
Bah, la question reviendrait à dire, est-ce que le Coca-Light empêche de sécher?
Voilà, bah ouais, c'est ça la question.
C'est ça la question au final. Alors, Rudy, on va peut-être déjà commencer par une remarque que tu m'as fait avant le podcast.
Voilà, parce que moi, je me souviens qu'à l'époque, quand je regardais un peu les études, il y avait quelques trucs qui semblaient prétendre que le fait d'avoir le goût sucré dans la bouche impliquait une réponse insulinique parce qu'on avait des récepteurs dans la bouche. Donc qu'en est-il exactement aujourd'hui ?
Alors non, il n'y a pas cette communication. On peut prendre l'exemple.
Il n'y a pas de récepteurs dans la bouche au goût sucré ?
Ah bah si, il y a des récepteurs au goût sucré, mais il n'y a pas de récepteurs qui stimulent l'insuline. Ils transmettent pas l'information de stimuler l'insuline, ces récepteurs. Et on a l'exemple du plus vieil édulcorant du monde, qui est aussi le plus sûr, c'est la stevia. Sur cet édulcorant, jamais aucune étude n'a montré que prendre de la stevia provoquait la production de la moindre goutte d'insuline, ni n'engendrait la moindre prise de poids. Donc c'est intéressant, ça nous donne une base de raisonnement. Ensuite, pour l'aspartame, c'est à ce moment-là, c'est au moment de l'aspartame, on a commencé à entendre parler de cette histoire. Alors je sais pas qui c'est qui avait propagé ce truc, il y avait peut-être une petite étude sur des rats ou j'en sais rien qui avait montré ça peut-être, je me rappelle pas. Mais en tout cas, non, c'est pas spécialement avéré. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a pas très longtemps, il y a une étude qui a suggéré que le sucralose, lorsqu'il était consommé avec un repas contenant des glucides, pouvait accentuer la réponse d'insuline. Donc, on ne sait pas non plus si ça fait ça chez tout le monde ou, pour l'instant, c'est un petit peu vague. Et après, si on regarde les études d'observation, on voit que la consommation de ces édulcorants n'est pas spécialement, comment dire, associée à une prise de poids. En revanche, il est vrai que les gens qui ont du surpoids ont tendance à consommer plus de ces produits, ce qui est un facteur confondant dans l'interprétation des études. Ce qui est certain, c'est que boire des boissons avec édulcorants au régime, pour beaucoup de gens, c'est d'une grande aide parce que ça coupe la faim. Et c'est certain que quand on est au régime, à savoir donc en déficit calorique, même si on boit des édulcorants, on va pas grossir et ça va pas nous empêcher de sécher. Donc si vous pouvez vous passer des édulcorants, qui sont des substances qui ne sont pas naturelles et qui n'ont pas une grande place spécialement intéressante dans l'alimentation, bah, c'est très bien. Mais si, vous, quand vous faites un régime, vous sentez avoir besoin de boire de ce genre de boisson non calorique, bah, ça fera pas grand mal. Après, si c'est toute l'année et tous les jours, là, c'est autre chose. C'est peut-être pas non plus la bonne attitude à adopter, quoi. En tout cas, je pense qu'il y a des choses plus préoccupantes pour sa santé et pour son physique que les microgrammes d'édulcorants qu'il y a dans Coca Light.
Mais souvent, car moi, je peux te donner un retour d'expérience là-dessus. Je me souviens au tout début, quand on faisait les sèches un peu extrêmes, justement, on prenait des boissons light et c'était vachement addictif quand même. Hein.
Ah oui, c'est addictif. Oui.
C'est vrai que quand t'as pas le goût, ce que tu disais en fait, c'est le goût sucré. Quand t'as à temps passé, c'est mieux parce que sinon tu bois toute la journée des trucs sucrés, quoi.
Ouais. Ouais, ouais. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont fait part d'une addiction à ces boissons.
Donc, la réponse est non.
Si, arrête de taper sur ton clavier.
Ah ouais, je répondais à un truc, mais...
On t'a entendu.
Alors, donc, n'a pas d'aspect négatif en période de sèche.
Voilà,
ouais.
Rien de...
T'as un son un peu haché, Julien.
Bah non.
Bah ça fait bizarre. Enfin bon, on t'entend pour l'instant toujours bien. Alors, entraînement. J'aimerais donc savoir... Donc c'est une question pour nous deux, parce que c'était en référence à ce que tu avais dit dans un article ou un livre, je sais plus. Donc j'ai gardé que la partie question de la personne. J'aimerais donc savoir si les pauses, donc les pauses d'entraînement, peuvent effectivement être utiles pour relancer la sensibilité des signaux anaboliques. Parce qu'on a déjà vu qu'en fait, plus on s'entraîne, moins on est sensible à l'entraînement. Mmh. En dépit des inconvénients que cela représente, selon Rudy, donc selon moi. Donc je commence par répondre et après tu prends la suite.
Bah vas-y.
Donc, je donnais plusieurs exemples. Donc, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, qui ont suivi l'actualité du body pro il y a quelques années, donc il y avait un pro qui s'appelait Kevin LeBron. Et justement, bah, ce mec-là s'entraînait que 6 mois de l'année. Donc, c'est-à-dire qu'après, il se préparait pour Olympia. Donc, comme chaque année, il était dans les 5-6 meilleurs, il était qualifié automatiquement. Et donc, 6 mois après, pendant 6 mois, il s'entraînait pour Olympia. Et les 6 mois suivants, bah, il s'entraînait pas du tout. Et par contre, chaque année, bah, il arrivait... il revenait à son niveau sans souci et vraiment très très rapidement. Et on le voyait, il perdait au moins 20 kilos, 25 kilos de muscle. Quoi. Le mec, on le voyait hors saison, on se disait non mais à côté des autres mecs, on se disait il est tout maigre et tout, il va pas y arriver, c'est vachement dur et tout. Et donc après, bah, exemple plus parlant, donc mon exemple, j'ai souvent, qui a malheureusement fait souvent des pauses assez longues, donc quand je me blessais, quand j'en faisais un peu trop quand j'étais ado. Donc ça pouvait arrêter, je m'arrête un mois, deux mois, etc. Et c'est vrai que j'avais remarqué que quand on reprenait, alors la force revenait pas comme ça, il fallait reprogresser, on revenait bien à 80% de son niveau de force endurance. Par contre, les muscles, on était vraiment plus sensibles et j'avais l'impression qu'on reprenait un peu plus que ce qu'on avait avant. En étant donc, en revenant au niveau où on arrivait, on était un peu plus musclé. Donc effectivement, ça relance, ça redonne un potentiel. Donc à l'époque, c'est ça que tu vas intervenir, Julien. On disait que l'arrêt permettait, j'ai plus le terme, j'ai plus le truc exact, mais d'avoir plus de cellules satellites qui pouvaient après déboucher sur de nouvelles fibres.
Ah, je croyais que c'était les cellules satellites avec les extraterrestres.
Non.
Ah, c'est pas celle-ci.
Non, c'est pas celle-là, mais je me souviens plus exactement du terme, mais qu'il y a du truc exact. Mais je crois que c'était ça l'argument mis en avant pour dire que les pauses, les longues pauses, pouvaient faire du bien.
Oui, bah déjà quand tu as lu la question, je croyais que tu parlais de pauses entre les séries.
Ouais, non, c'est parce que c'est pause d'entraînement.
Ouais, donc là on parle de période de repos sans entraînement.
Voilà.
Ouais, mais en fait, mais il y a quelques podcasts déjà où j'avais expliqué que j'avais posté une étude sur mon site qui montrait que a priori faire des pauses était bénéfique pour la progression. Alors après, comme dit Michael Gundy, quand on fait des pauses comme ça, il faut quand même voir si on a la motivation pour reprendre l'entraînement, parce que c'est vrai qu'il y a des gens, quand ils font du sport, ça marche bien parce qu'ils sont dans une routine et ils y vont, et quand ils arrêtent pour reprendre, c'est la cata. Donc bon, ces personnes-là, c'est peut-être pas la bonne chose à faire.
S'il faut, aussi quand on fait de la muscu, car moi, tu me dis il faut s'arrêter un mois, je veux dire putain, si on est un peu drogué à la muscu en même temps, donc s'arrêter un mois pour se dire qu'on va plus progresser après, c'est vachement dur à admettre.
Ouais, c'est sûr.
Donc est-ce que la théorie des cellules satellites qui seraient en plus grand nombre avec la période de repos est un bon argument?
Bah non, je pense pas que ce soit les cellules satellites qui soient en plus grand nombre par miracle.
C'est quoi l'explication? T'en as une?
Non, là, a priori, non. J'ai pas d'explication là comme ça, mais effectivement, il doit y avoir une régulation des récepteurs aux différentes hormones qui doit se modifier avec le repos, et effectivement, elles deviennent plus sensibles, puisque quand tu t'entraînes constamment, les récepteurs sont un peu saturés. Donc après, tu t'arrêtes de t'entraîner, il y a une désensibilisation des récepteurs, et tu te réentraînes à nouveau. Et à ce moment-là, on va dire que les hormones anabolisantes doivent être un petit peu plus efficaces, en fait, finalement, au niveau des muscles.
Comme quand tu prends, pour l'exemple, comme quand tu prends de la caféine, tu en as pas pris depuis longtemps, et puis tu en prends d'un coup, tout de suite, tu es plus sensible à ses effets.
Ouais, par exemple, ouais, c'est comparable.
Je me souviens aussi donc, d'un autre article que j'avais lu là-dessus, donc il y a quelques années aussi, que l'arrêt permettait... quand on s'entraîne forcément, nos fibres vont muter en quelque sorte. Donc par exemple, si on fait plutôt des séries longues, nos fibres vont pas toutes devenir ultra rapides, mais que l'arrêt de l'entraînement justement permettait, comme on fait moins d'efforts, à nos fibres de revenir à l'état originel où elles étaient. Donc imaginons qu'on avait plus de fibres rapides et qu'elles sont. Donc il y a plusieurs types de fibres rapides, donc j'ai plus les trucs en tête, mais on va prendre l'exemple basique. Les 2A, les 2B et puis les fibres lentes, même s'il y a beaucoup plus de variations que ça. Et ben quand on s'entraîne en muscu, normalement, comme on préconise, on va avoir une majorité de 2A, alors qu'on avait des 2B à l'origine, donc qui ne vont pratiquement plus exister, et que quand on arrête, et ben les 2A redeviennent 2B. Ce qui redonne un nouveau potentiel. Julien?
Oui, bah écoute, pourquoi pas. J'ai pas plus d'informations là. Sur le sujet.
Ok, bon bah, Julien, je compte sur toi pour chercher des nouvelles informations sur le sujet.
Bah, ouais, mais...
Non, bon, la réponse est oui, ça permet de relancer... en général, ça permet de faire plus de muscles. Mais après, le tout, c'est vraiment de savoir s'arrêter pour...
Après, on peut aussi, on peut tricher dans cette idée-là, ce concept-là. On peut très bien, supposons Monsieur X qui nous écoute et qui a envie de mettre à profit cette théorie que le repos va lui permettre de par la suite de progresser plus vite. Bah peut-être, et ça devrait fonctionner théoriquement. On peut aussi essayer de faire un changement dans le type d'entraînement, à savoir par exemple quelqu'un qui a beaucoup entraîné le haut du corps, comme beaucoup d'ailleurs.
C'est un exemple qui te plaît ça.
Les pectoraux, le dos, voilà, qui sont musclés en haut, mais pas du tout en bas, ou très peu, bah, ça peut être pas mal de faire une pause complète du haut du corps, et puis de faire pendant un mois que les cuisses. Et déjà, il y aura une bonne progression au niveau du bas du corps, et puis ensuite, de repartir sur le haut, ça fait quand même...
Je pense que personne ne va faire ton exemple. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas.
Ah bah...
Je sais pas pourquoi, mais je sens que... Je savais que t'allais dire un truc du style...
Disons que alors.
Je pense que ça va pas se faire.
Ceux qui font que du développé couché peuvent faire une pause pour faire un peu le dos.
Voilà, ça je pense que c'est plus probable.
Enfin, dans le concept, c'est un peu le même, disons que
c'est. Non, mais comme un vieux couple, je savais ce que t'allais dire. Je savais d'avance. Merde. Et c'est toi qui es la fille, hein.
Ah non.
Ah si, je suis obligé, hein. T'es obligé.
crois pas que tu puisses dire autant de conneries à l'antenne quand même.
Donc, je pense qu'on a répondu à la question.
Oui, ma chérie.
Alors, Julien, dernière question. Mm-hmm. Que pensez de l'arnica et de la gelée royale?
C'est alors, la même
chose. On commence par l'arnica. Allez.
Bah, l'arnica, c'est efficacité prouvée pour les œdèmes, tout ce qui est lié au choc et blessures. Hein. On en donne aux sportifs sur le terrain dès qu'ils ont les rugbymen, les footballeurs, dès qu'ils se cognent, qu'ils tombent ou quoi, on leur donne de l'arnica. Parce que c'est une action assez rapide sur les chocs en fait. Donc bah oui, c'est bien, ça peut être utile, mais en muscu, on a quand même rarement des chocs. C'est pas vraiment le truc qu'on rencontre le plus souvent nous, chez nous. Donc personnellement, je n'en ai pas. Et ensuite la gelée royale, bah c'est donc un produit de la ruche fabriqué par les abeilles. Et bah la question est très vague, il y avait pas d'autres précisions, Rudy ?
Non, il y avait que ça.
Bon, parce que tout dépend, hein, comme beaucoup de choses, tout dépend pourquoi on le prend. Donc la gelée royale, ça a montré des propriétés contre la fatigue, c'est un petit peu stimulant. Donc voilà, peut-être aussi un petit peu bénéfique pour le système immunitaire en hiver.
Bon, voilà. Je pense que c'est beaucoup de vent la gelée royale, mais.
Enfin, beaucoup de vent peut-être pas, mais c'est pas non plus. Faut pas en attendre des miracles, hein. C'est pas vraiment le.
C'est ça, parce que j'ai une élève aujourd'hui qu'on a acheté sans m'en parler. Elle va se reconnaître. Et je lui ai dit justement, pourquoi t'as acheté ça?
C'est pas le truc dans lequel on mettra son argent en priorité, quoi. Si on veut quelque chose pour éviter de tomber malade en hiver, bah, on se tendra plutôt vers la vitamine D, la vitamine C. Ce sont des choses dont on a vraiment besoin, dont on manque vraiment. Et la gelée royale va pas combler les déficits en vitamines. Et puis voilà, et si c'est pour la performance ou la fatigue, il y a aussi d'autres choses qui vont être plus intéressantes. Hein.
Bon bah, je pense que tu as parfaitement répondu à la question, Julien. Donc je rappelle encore une fois, comme à chaque fois, que vous pouvez poser vos questions sur le forum Superphysique exclusivement. Rubrique entraînement, sujet podcast.
Et Rudy, est-ce qu'il y a des nouvelles des t-shirts?
Et ben, j'ai pas fait beaucoup de t-shirts rouges, donc mais vraiment, j'en ai fait pas beaucoup du tout. Donc, dépêchez-vous, et si ça part bien, bah, je referai assez vite.
D'accord.
Donc voilà.
Merci Rudy.
Par contre, Julien, j'ai pas de XS pour toi.
Ah zut.
Ouais zut.
C'est un peu grand. La dernière fois, tu m'as envoyé le XS, je flottais au niveau des bras.
Là, il t'ose même pas le mettre à la salle, ça, gouin. Ah, on lui offre des cadeaux et même pas il les met.
Ah.
Pour véhiculer les valeurs de Superphysique. Quelle honte. Donc voilà, n'oubliez pas de poser vos questions et puis on y répond comme d'habitude avec plaisir. Sur ce, à la semaine prochaine.
Au revoir tout le monde.